Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau grand format dont on va déguster. Le confinement nous fait parfois perdre toute notion du temps. Eh bien, je vous confirme que nous sommes bien le dimanche 8 avril. Non, pas 8, le 12. Et que c'est Pâques, joyeuse Pâques à tous. Qui aurait imaginé ces fêtes de Pâques sous cloche? On va tenter d'en faire un moment de réconfort et de partage avec nos invités, nos experts, nos chroniqueurs et vous-même, amis auditeurs. Quelles recettes salées et sucrées au menu de votre déjeuner, Pascal? Bianca et Théo, nos jeunes standardistes, attendent vos témoignages au 01 45 24 7000. Au menu de ces deux heures en direct, l'historien Pascal Horry nous expliquera les origines des traditions pascales et on se demandera avec lui pourquoi une certaine culpabilité à l'idée de manger de l'agneau s'est installée dans nos sociétés. Nous poserons aussi cette question à Stéphane Chétrit, éleveur d'agneaux de lait des Pyrénées, qui nous révélera d'ailleurs sa recette imparable de gigot pascal. Le grand pâtissier Frédéric Beau nous fera partager son gâteau au chocolat simple et totalement orgiaque. On plongera également dans Pessard, la Pâque juive, oui, qui tombe également ces jours-ci avec la cuisinière Perla Servan-Schreiber. Et on vous servira bien sûr sur un plateau les surprises gourmandes de plusieurs voix de France Inter que vous connaissez bien, Dorothée Barba, Vincent Joss et Laurent Delmas. Et puis nous retrouverons bien sûr tout au long de cette émission nos chroniqueurs confinés, Elvira Masson, Estherelle Payani, notre chroniqueur vin Jérôme Gagnez et notre tonton Arnaud Daguin. Retrouvez les recettes, toutes les infos pratiques et le podcast de nos émissions XXL sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Julia, impeccable. Ça, c'est un gigot. On pourrait peut-être faire une petite mayonnaise.
Qu'est-ce qu'on fait avec les gigots, madame? Vous le rendez, on n'en a plus besoin, la fête est finie.
Mais non, rassurez-vous, la fête ne fait que commencer en ce dimanche 12 avril et non 8. Avec quelques coups de cœur gourmands pour entamer cette émission, c'est la tournée des popotes avec nos chroniqueurs. Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous en prenez de la graine aujourd'hui, Elvira.
Et c'est bien ça, parce que la semaine dernière, notre copain maraîcher Xavier Mathias nous emmenait virtuellement faire un tour dans son jardin de Chédigny, en Indre-et-Loire, et moi ça m'a fait un peu rêver, je sais pas vous.
Ah oui.
Or c'est le moment de commencer ses semis de printemps et d'été, et on n'est pas obligé d'avoir un jardin, ça tombe bien. Un petit balcon, une jardinière sur un bord de fenêtre, et c'est déjà le début d'une promesse. La bonne nouvelle, c'est que les jardineries viennent d'obtenir l'autorisation de rouvrir, car les horticulteurs ont fait reconnaître les plants et semences potagères comme produits de première nécessité. Mais alors quand on n'y connaît pas grand-chose, le choix des graines peut être plutôt un casse-tête, sachant qu'on trouve des variétés bio, mais qui sont quand même des variétés issues de l'agro-industrie faisant partie du catalogue des semences officielles qui est trusté par les géants du secteur. Alors le bon choix, ce sont les semences paysannes, celles qui favorisent la diversité végétale et qui sont autorisées à la vente aux jardiniers amateurs, pas aux pros. Alors il y a Biogerm dans le Lot-et-Garonne, mais en ce moment ils ne peuvent pas travailler. Il y a Cocopelli qui expédie, mais qui prévient de retard de livraison, c'est affiché sur leur site, tout comme la ferme de Sainte-Marthe. Et vous avez peut-être à côté de chez vous des petites jardineries indépendantes. Si c'est le cas, écrivez-nous. On partagera les adresses sur le site. À Paris, moi j'en connais une qui est géniale. C'est le jardinier de Montmartre, rue du Poteau, dans le 18e. Alors bien sûr, faut être parcimonieux avec les achats en ligne, parcimonieux avec les livraisons, les achats tout court en ce moment. Mais il faut aussi soutenir les économies fragiles, surtout celles qui œuvrent pour la biodiversité.
C'est ça, vous avez raison Elvira. Et trouver justement une décision équilibrée entre faire travailler des gens ou des livreurs qui parfois sont insuffisamment protégés, maintenir également une certaine économie, notamment du côté de l'artisanat. C'est tout le débat et on se rend bien compte dans vos témoignages, chers auditeurs, que ça fait rage. Merci Elvira, on se retrouve un peu plus tard dans l'émission. Il nous raconte comment un village de Bourgogne, justement, a plutôt tendance à se réveiller pendant la crise sanitaire. C'est Jérôme Gagnez, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Jérôme.
Alors effectivement, moi je voudrais, ce confinement, il y aura à tout malheur, parfois il y a des choses bonnes. Et en l'occurrence, dans un petit village de Bourgogne de Lyon, on est dans Lyon, à une petite quinzaine de kilomètres au nord d'Auxerre, s'appelle Branche, et ce village qui avait perdu son commerce depuis bien longtemps, a retrouvé, alors depuis quelques années, un petit commerce, depuis peu d'années, un petit commerce, qui est tenu par Joël Desmoutiers et Gérard Breton, qui sont éleveurs caprins, qui font des fromages de chèvre au lait cru absolument délicieux. Et avec ce confinement, eh bien, cette petite échoppe dans le village a grossi, pas tellement en taille, mais en activité, parce que bien ils ont conclu un partenariat avec un maraîcher du coin. Ils s'échangent leurs propres produits. On trouve les fromages de chez Gérard Breton et Joël Desmoutiers chez ce maraîcher, à Guerchy, à côté. Et puis, à Branche, on trouve les légumes de Guerchy. Et résultat des courses, eh bien, il y a un peu plus d'activité et le commerce renaît un peu. Donc voilà, c'est au moins une petite vertu de ce confinement pénible que nous vivons tous. C'est la renaissance un petit peu du commerce dans les villages de France, ce qui me réjouit.
Et des produits aussi de proximité pour les gens qui habitent notamment ces villages et pour leur éviter par exemple de prendre la voiture et de pousser un caddie dans une grande surface.
Exactement, et précisément là, tous ces producteurs qui étaient joyeusement ignorés jusqu'à ce confinement par la grande distribution sont aujourd'hui mis à l'honneur dans ces nouveaux circuits de distribution, et c'est tout à fait réjouissant, et encore une fois, gageons que ça continue après ce confinement et que ça perdure, parce que c'est aussi l'économie d'un pays qui revit grâce à ça.
Et certains villages qui renaissent donc. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jérôme Gagnès. On se retrouve tout au long de cette émission et on finit par un coup de cœur à déguster avec notre ami Arnaud Daguin. Bonjour.
Bonjour, bonjour. À l'époque lointaine où je gambadais encore libre et nu dans les campagnes du 14e arrondissement, aujourd'hui inaccessible, figurez-vous, mon cher François Régis, que je fus victime d'une agression. Je fus agressé par une ogresse qui, sans mon consentement, me fit connaître des délices. Les délices de l'ogresse, des sauces, des condiments, des confitures, des pâtes à tartiner, qui cochent toutes les cases de la vertu. Les délices de l'ogresse pour agrémenter les rôtis, les tartines, les saucisses et bien sûr, l'émincé de petits poussés garnis de ses grands frères.
Ah.
En ces temps de cuisine intensive, plus ou moins volontaire ou plus ou moins enthousiaste, il ne faut pas négliger la moindre occasion d'agrémenter nos plats domestiques. Alors, vive l'ogresse Ranois qui a laissé tomber son métier de reporter de guerre pour nous régaler de ses conserves magiques capables de transformer n'importe laquelle de vos coquillettes en expérience gustative. Les délices de l'ogresse en vente sur son site. Faites-vous ogresser, vous me remercierez.
Donc l'ogresse vend bien en ligne en ce moment, merci beaucoup.
Absolument.
Arnaud Daguin, que j'imagine nu sur son balcon.
Voilà, défaut de gambader dans les... C'est ça. Dans les campagnes du 14e.
Oui, c'est ça, histoire d'effrayer les voisins d'en face.
Voilà.
À tout à l'heure, Arnaud. Merci beaucoup. Si on va déguster XXL, a été étroitement préparé avec Nadia Chougui. C'est Laurent Thomas qui le réalise en direct avec Alexandre Chenet à la technique. Pierre de Certaines nous aide à coordonner l'émission. Dans un instant, on célèbre et on explore les saveurs de Pâques. Mais pour garder un peu le moral et l'appétit en ce dimanche de Pâques confiné, il nous faut d'abord un petit Louis Chédid. Tout ce qu'on veut dans la vie. Joyeuse Pâques sur France Inter.
Apaiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis, qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie,
c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
On va déguster version grosse portion. Nous sommes en direct jusqu'à 11h et nous avons déjà au bout du fil Rebecca, bonjour.
Bonjour.
Je crois savoir que vous nous écoutez et vous nous appelez de très très loin.
De Sydney, oui.
De Sydney, en Australie.
C'est ça.
Vous êtes
ça, ici il est 17h20 et on est confiné aussi. Voilà.
Vous êtes donc française. Que faites-vous en Australie, Rebecca?
Du coup, moi, je suis en dernière année de master culture et patrimoine de l'alimentation.
Ah.
Et là, je suis en échange pour terminer mon année et je m'intéresse particulièrement à la culture aborigène ici.
Ah, voilà. Et là, vous seriez plutôt dans la cuisine confinée que la culture aborigène?
Là, voilà, c'est apprentissage chez soi, on va dire.
Mais
c'est différent.
Comment ça s'est passé en fait? Vous êtes parti donc pour un échange universitaire et vous vous êtes retrouvé entre guillemets pris au piège du confinement australien sans pouvoir rentrer en France?
Alors pour le moment on peut encore rentrer en France mais c'est assez compliqué.
Oui.
Et en fait moi j'ai toujours cours via mon ordinateur et le fait que en fait ça serait pas pratique d'être en France à part avoir cours à 2h du mat ou 3h du mat.
Oui.
Et actuellement, les conditions sont quand même meilleures ici. Et aussi, en fait, il faut rester chez soi. Donc, il faut aussi éviter de prendre l'avion dans certains cas. Donc, voilà,
ça.
J'ai pris la décision pour le moment de rentrer ici. Et je cuisine de chez moi avec mes colocs. Et on fait toutes les recettes possibles et imaginables.
Ah, magnifique. Et vous nous écoutez aussi parfois, alors, c'est ça?
Exactement, parce que pour moi c'est le soir et nous à la maison on a une chef aussi pâtissière donc on écoute un peu les idées. En ce moment on est beaucoup sur le pain.
Oui.
Voilà, le pain, la pâte à pizza, comment aussi faire quand les supermarchés. Nous en fait la différence même de la France c'est qu'on a des restrictions aux supermarchés. On a vécu le confinement.
Mmh.
Avant c'est de pas trouver les aliments au supermarché. C'était ça en fait avant. Donc c'est un peu compliqué. Là maintenant on apprend, on fait différemment.
Vous faites différemment. Ça, et le confinement est aussi contraignant qu'en France ou vous avez la liberté de vous déplacer un peu plus facilement?
Ben, on a encore le droit de faire du jogging après 10h.
D'accord.
C'est ça le vrai.
Pour perdre les calories quoi, que vous avez prises avec vos recettes?
Oui, faut rester quand même en bonne santé, je pense physiquement et aussi mentalement. Donc il s'agit de quand même prendre un peu d'air frais tous les jours. Mais on peut faire du sport dehors, on peut aller faire nos courses. Mais après, voilà, c'est quand même très recommandé et nécessaire de rester chez soi.
Chez soi. Bah, merci beaucoup, donc, Rebecca, en tout cas, pour ce message long courrier. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Sydney où vous êtes donc confinés. Je vous souhaite malgré tout une joyeuse Pâques. À bientôt. Au revoir, Rebecca.
Merci, au revoir.
Il y en a un qui ne va pas se priver de fêter Pâques à sa manière. C'est Arnaud Daguin et son coup de lame.
France Inter. On va déguster.
Mes bien chers co-confinés, cotolardes et cotolards, en ce beau dimanche de Pâques, que pondre? Oui, que pondre quand tout cloche? Pâques. Ces gigots d'agneau, ces cocottes en choco, Pâques, c'est tout ça, mais pas que. Pâques, c'est la résurrection, celle du bon Dieu et de mes plantes en bulbe. Mais pas que. Pâques, c'est aussi la politique agricole commune, la résurrection de l'agriculture. Enfin, il faudrait. Cette averse de pognon, ces giboulées bénis, censés aider les paysans dans leurs œuvres nourricières. Mais le miracle n'a pas lieu. Tous ces milliards ne servent qu'à survivre, alors que l'agriculture a besoin de revivre. Mes chers co-confinés, co-recluses et co-reclus, dans Pâques, c'est le C qui cloche. La PAC devrait désigner la politique agricole du carbone. Le carbone du plus haut des cieux, redescendu sur terre, ressuscité les sols. La politique agricole du carbone, carbone pain béni de la fertilité, des sols vivants, de la résilience, des millions d'arbres, des milliards de vers de terre, des trillions de kilomètres de filaments de champignons. Arrêtons de faire à la charité et rémunérons enfin les paysans pour les services vitaux qu'ils nous rendent. La capture du carbone, le bon traitement de l'eau et la production d'un maximum de biodiversité. Voilà la sainte trinité de la fertilité. Baigner dans la vertu en faisant renaître la vie et non plus se vautrer dans le péché en entretenant comme une vieille poule de luxe une industrie du pétrole en fin de carrière. Tous ensemble, allons en paix vers une agriculture pérenne, généreuse et optimiste. Mes chers codétenus, prions pour la PAC, politique agricole du carbone, l'agriculture de notre salut. Allez, salut.
Merci Arnaud, et à tout à l'heure, merci beaucoup. Retrouvons un peu de sérieux pour nous aider à y voir plus clair sur les origines, notamment des traditions pascales. J'ai cherché un historien prénommé Pascal, et j'ai trouvé Pascal Horry. Bonjour.
Bonjour François-Régis, je précise que si je me prénomme Pascal, je ne suis pas un agneau hein, quand même.
Oui, mais on va parler d'agneau avec vous justement et de sa symbolique, notamment dans les fêtes que nous sommes en train de célébrer. Vous êtes historien spécialisé dans l'histoire de la France contemporaine, vous avez toujours intégré la gastronomie dans vos champs de recherche. Alors je crois, juste pour l'anecdote, que vous avez la chance d'être confiné dans une maison à Chartres, une vieille maison au destin singulier.
Oui, Chartres est ma résidence principale. J'habite dans la maison qui est traditionnellement à Chartres appelée la maison Henri IV, parce que le roi de ce nom est supposé y avoir dormi la veille de son sacre. C'est le seul roi de France qui a été sacré à Chartres. Et au moment où je vous parle, j'ai au-dessus de la tête une chambre qui a été conservée dans son jus, où le roi est supposé avoir dormi. Et certains historiens, mais tout le monde n'est pas d'accord, affirment qu'il n'a pas dormi seul.
Ah oui, oui. Vous continuez à mener l'enquête, j'espère.
Oui.
Même si c'est plutôt la France contemporaine, votre objet de recherche. La Pâque des chrétiens, cher Pascal Horry, et Pessard, la Pâque juive, tombe cette année aux mêmes dates. Hein. Pâque, évidemment, c'est dimanche pour les chrétiens, alors que Pessard a commencé mercredi dernier et se termine ce jeudi 16 avril. Et ces deux fêtes religieuses ont en commun d'avoir un peu le goût de l'agneau. Expliquez-nous pourquoi cette symbolique de l'agneau pascal dans la religion et aussi plus largement de façon païenne dans notre gastronomie.
Ces deux fêtes ont un lien direct parce que le christianisme a repris et a d'ailleurs modifié fondamentalement la signification de la fête juive. La fête juive célèbre la libération du peuple juif en esclavage en Égypte. C'est un moment essentiel dans l'histoire du peuple juif et d'ailleurs d'une certaine façon dans l'histoire de l'humanité par l'importance que la Bible a encore aujourd'hui sur nous, y compris chez les musulmans. C'est donc une sorte de contrat qui a été en quelque sorte convenu entre Dieu, c'est du lourd comme diraient mes enfants, dans le livre de l'Exode, hein, puisque le mot Exode vient de là, vous avez Dieu qui s'adresse directement à Moïse, donc au peuple juif, et qui lui dit « En souvenir de cette libération que je t'offre, des Égyptiens, il faudra que chaque année tu sacrifies l'agneau. » C'est-à-dire que chaque famille sacrifiait un agneau. Et ça c'est clair pour une autre raison, c'est le sacrifice d'Abraham, le premier suspense de l'histoire de l'humanité, quand Abraham va sacrifier son fils et qu'un ange descendu du ciel, comme dirait l'autre, arrête son bras. C'est-à-dire que c'est la fin des sacrifices humains, et à la place, on sacrifie un bélier qui était de passage, là, hein, bon. Et donc, ce moment essentiel, il est aujourd'hui célébré par les musulmans. L'Aïd el-Kébir qui aura lieu, alors pas en ce moment, mais le 31 juillet, je crois, cette année, célèbre ça. Donc, les juifs, tant qu'il y a eu le temple de Jérusalem, les juifs ont sacrifié, c'était vraiment un sacrifice, vous savez que le sacrifice est essentiel dans les religions traditionnelles, on sacrifiait des agneaux en masse. Et puis, depuis que les Romains ont détruit le temple de Jérusalem, c'est vrai que c'est devenu plus symbolique, Ce qui veut dire que, au moment de Pessah, mercredi soir ou en ce moment, les juifs pieux ne sont pas obligés de consommer de l'agneau. Mais c'est vrai que ça reste la tradition, et dans la cuisine juive, il y a de nombreuses recettes pour accommoder l'épaule d'agneau, l'épaule de mouton, etc.
Mais pas forcément particulièrement à la table de Pessah. Il est vrai que dans notre Pâque, au départ chrétienne et puis qui est devenue païenne, l'agneau est évidemment toujours au menu. Vous-même, est-ce que d'ailleurs il y aura de l'agneau sur votre table de Pâque, cher Pascal?
Tout à fait, c'est une tradition, de même que le dénichage des œufs quand nos enfants étaient avec nous était absolument indispensable. D'ailleurs, certains de nos enfants qui ont la chance, comme nous, d'avoir un jardin, vont dénicher les œufs. Mais c'est une autre affaire.
C'est ça. Je crois savoir que votre femme, qui d'ailleurs a fait carrière dans le milieu hospitalier, qui est désormais à la retraite, vous a soufflé une drôle de recette d'agneau à l'oreille et qui est à cette circonstance.
Oui, elle est toujours d'une certaine façon diététicienne, donc c'est le type de personnel soignant, comme on dit beaucoup en ce moment, qui plaît dans l'émission, évidemment. Elle a soigné, il y a pas mal d'années, donc, une patiente qui lui a dicté, en quelque sorte, une recette, et on s'est rendu compte après que c'était, en fait, la recette du fameux gigot de la clinique qu'on trouve dans un livre mythique, le livre de recettes d'Alistoclas. Alistoclas, qui était cette compagne de la grande Gertrude Stein, cette femme qui accueillait, entre autres Picasso, qui en a fait son portrait chez elle, rue de Fleurus à Paris. Mm-hmm. Et Alistoclas, après la mort de sa compagne, a publié, aux éditions de Minuit, très chic, un livre de recettes dans lequel il y a le gigot de la clinique.
Le gigot de la clinique, vous pouvez nous en dire un mot, parce qu'effectivement il y a une résonance un peu hospitalière entre guillemets dans cette recette qui est véritablement singulière, qui a d'ailleurs beaucoup d'adeptes. Je me suis un peu renseigné sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font le gigot à la clinique d'année en année. On va dire que c'est un gigot qui se fait un peu picouser avec une seringue.
Exactement, puisque d'après Alistoclas, c'est un chirurgien de province, c'est peut-être un chirurgien de la région du Bugey, le pays de Briat-Savarin, où Toclas et Gertrude Stein étaient réfugiés pendant l'occupation, qui aurait mis ça au point, mais enfin je pense que ça remonte plus loin. Effectivement, il vaut mieux avoir une seringue, mais pour l'espèce, c'est une marinade. Mais une marinade en deux temps, c'est quand même une semaine,
oui,
de marinade.
Absolument.
Les trois premiers jours, on pique le gigot avec un mélange de cognac ou d'armagnac, hein, soyons larges, et de jus d'orange, enfin des oranges pressées, et il est pendant ce temps-là en train de mariner dans du vin de Bourgogne de préférence, puis l'ensemble genièvre, muscade, gingembre, thym, laurier, poivre que vous imaginez, et puis les quatre jours suivants, c'est avec la marinade qu'on le pique.
C'est
ce qui
incroyable.
Fait que quand il est rôti le septième ou le huitième jour, ben, il est évidemment à point et d'une certaine façon, et délectable déjà même avant d'être rôti.
Oui, c'est ça. Et il paraît même en fait que tout ce protocole culinaire pendant 8 jours, donc ça s'étale pendant quand même plus d'une semaine, eh bien va apporter justement à la viande un peu un goût giboyeux, un goût de venaison, qui l'apparente davantage effectivement à un gibier qu'à un simple gigot rôti.
Exactement. Et vous savez sans doute, le grand Yves-Marie le Bourdonnec, la danière, le grand boucher danière, a mis au point une recette avec Emmanuel Giraud, que vous connaissez aussi, ce grand gastronome, où avec un agneau qui, alors, c'est plus moderne, c'est presque post-moderne, et cuit à basse température, lui, c'est toujours avec seringue ou l'équivalent, c'est du whisky japonais qui le parfume.
Ah oui, très, absolument. Oui, j'avais entendu parler de cette recette, le gigot de la clinique d'Alistoclas, qui est-elle donc, comme vous le disiez, la cuisinière, la maîtresse de maison, la compagne de l'écrivaine Gertrude Stein. Et aussi, dans ce recueil de recettes, il y a une autre préparation célèbre qui est assez connue, c'est le hashish fudge.
Oui,
c'est carrément,
c'est ça.
Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi un space cake de façon moderne, mais c'est en tout cas une notamment une recette qui est très pratiquée sur la côte ouest des États-Unis. Je vais vous proposer, cher Pascal Horry, vous restez avec nous évidemment, hein, une petite pause musicale. J'imagine que vous êtes assez cher à la News Day,
tout à fait.
Musique. Est-ce que vous connaissez la News Day de Samuel Barber?
Absolument. Je recommande aussi celui de Arvo Pärt pour parler de compositeurs contemporains. Mais Barber, c'est très bien.
Et on abordera juste après la question de l'agneau, dont la consommation choque des végétariens, des végétaliens. Si d'ailleurs, amis auditeurs, vous avez décidé d'arrêter de manger de l'agneau, vous pouvez réagir dans cette émission. On attend vos témoignages au 01 45 24 7000. Et pour instaurer un peu de sérénité et d'émotion, eh bien, je vous propose d'écouter la News Dei de Samuel Barber. Barber, donc ce compositeur américain dont le thème a été repris et arrangé d'ailleurs par Georges Delerue comme thème principal du film Platoon d'Oliver Stone. La News Day de Samuel Barber, et en parlant d'agneau de Pâques, nous sommes toujours avec l'historien Pascal Horry pour une conversation autour des traditions pascales. Et venons-en, cher Pascal Horry, à ce débat saignant, si j'ose dire. Manger de l'agneau pour Pâques devient intolérable pour certains consommateurs végétariens ou véganes, qui font d'ailleurs beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et il y a même de nombreux mangeurs omnivores comme moi qui se posent de temps en temps des questions, qui ont une petite culpabilité à l'idée de manger de jeunes animaux. Tenez par exemple, le compte Instagram de France Inter a publié vendredi la vidéo de mon gigot d'agneau de 7 heures qui a déclenché de très nombreuses réactions outrées. Je vous en livre quelques-unes. Une Caroline nous dit « On pourrait peut-être enfin laisser tomber ces traditions d'un autre âge, non ? Manger des bébés pour célébrer une religion ? Non mais franchement. » Un autre nous dit « Essayez de vous rappeler ce qu'il y a derrière le mot viande, des bébés qui pleurent et qu'on massacre pour un plaisir gustatif, ne pas se plaindre de la violence dans le monde avec de tels agissements. » Là, ça dérape légèrement. Et il y a carrément un auditeur dont France Inter a supprimé le message qui me souhaitait les mêmes souffrances que celles qu'on fait subir aux agneaux. L'historien que vous êtes, Pascal, porte quel regard sur ces réactions ?
Mais écoutez, il faut partir de la News Day qu'on vient d'entendre, parce que chez les chrétiens, il n'y a plus de sacrifice animal. Le vrai agneau, d'ailleurs, c'est déjà dans Isaïe, c'est le Christ qui se sacrifie pour nous. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de virtualisation, de virtuel. C'est une virtualisation, c'est une symbolisation. Reste que la religion chrétienne n'est pas végétarienne, encore moins la religion islamique, puisque l'Aïd el-Kébir, là, a maintenu le sacrifice. Hein, parce que l'Aïd el-Kébir, tous les ans, c'est un sacrifice. Donc, il n'y a plus de sacrifice animal chez les chrétiens, mais beaucoup de chrétiens ont été très ébranlés par cette sorte d'évolution du sacrifice humain, Isaac, puis du sacrifice animal. Ils sont passés au végétarisme, et d'ailleurs, le végétarisme moderne, il remonte pas, comme on le dit parfois, à Pythagore, etc., il remonte au 19e siècle, en milieu protestant. Ça, c'est très important.
Oui.
Vous savez, s'il y a des frères Kellogg qui ont inventé les céréales au lait de soja, si possible, donc lait végétal au petit déjeuner, c'est parce que c'était des militants protestants, rigoristes, qui étaient donc anti-alcooliques, végétarien, et j'ajouterais qu'il luttait aussi contre la masturbation. Donc vous avez une sorte, ben oui, les frères Kellogg, c'était ça. Donc vous avez une sorte de logique puritaine, Puritan, oui. En anglais, ça veut pas dire ce qu'on dit en français, ça veut dire protestant rigoriste.
Donc vous êtes en train de nous dire, Pascal Auric, que le véganisme aurait vraiment ses racines dans la culture puritaine et protestante.
Oui, parce que il y a des pratiques végétariennes, par exemple, dans la civilisation hindouiste. C'est évident. Mais, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en Inde, la consommation de viande progresse avec, premièrement, la présence des musulmans, qui sont une forte minorité, mais deuxièmement, avec l'élévation du niveau de vie. Donc, vous avez la logique philosophique dont je viens de parler, qui est très importante, et je pense qu'au XXIe siècle, le végétarisme va continuer à progresser. Mais vous constaterez qu'il est à son sommet dans les pays plutôt de culture protestante. Faites le test. Aux États-Unis, bon, les statistiques du végétarisme sont variées, mais disons, c'est autour de 10-12%. Y compris les flexitariens. Mais vous passez au Mexique, pays de culture catholique, il y en a très très peu. Donc, il y a des cultures nationales qui sont d'abord des cultures religieuses. Mais par ailleurs, il y a une évolution sociologique.
C'est ça. Alors, dites-nous justement, parce que on sent bien qu'il y a quand même une atmosphère et un débat qui fait rage avec des véganes ou des végétariens qui font de plus en plus de bruit. Pour vous, c'est une minorité, mais une minorité en tout cas bruyante, agissante.
Oui, comme d'ailleurs toutes les avant-gardes à toutes les époques, reste à savoir jusqu'où elle peut monter. Aujourd'hui, les véganes ou végétaliens, les radicaux du végétarisme, représentent très peu en France, semble-t-il, vous savez, les statistiques sont floues là-dessus, mais elles sont de plus en plus fines, moins de 1%. Donc ceux qui vous agressent sur Instagram, c'est une petite minorité. Mais c'est une minorité qui progresse, d'autant plus qu'il y a une frange modérée, dite flexitarienne. Et pour moi, il y a une interprétation sociologique qui est essentielle. Nous vivions, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, moi qui suis un vieillard, ben j'ai bien connu ça, dans une société plutôt rurale, où le contact avec l'animal, qui était éventuellement un animal de compagnie, mais en général utilitaire, le chien, le chat, c'était utilitaire, l'animal avec lequel on vivait quotidiennement, que l'on aimait, on l'aimait, on le tuait, on le mangeait. C'est le rapport traditionnel, mais depuis la nuit des temps.
Et c'était finalement assez cohérent.
Oui, il faut bien savoir que nos ancêtres les plus anciens, l'homme de Néandertal, n'étaient même pas carnivores, ils étaient carnassiers. Faudrait pas croire qu'ils étaient végétariens. Comme ils vivaient de cueillette et de chasse, ben, ils avaient une alimentation très carnée. Donc, c'est contraire de ce qu'on peut penser. Et aujourd'hui, nous avons un rapport à l'animal tout à fait différent dans une société urbaine, où nous rabattons l'animal vers l'animal de compagnie qu'on aime bien, et qu'on va pas évidemment tuer. Donc, et on a en quelque sorte exterritorialisé l'abattoir et l'abattage.
Donc on trouve l'explication aussi de la montée en puissance du végétarisme et du véganisme dans le déclin du monde rural et dans cette espèce de déconnexion entre les consommateurs urbains et finalement les aliments qu'ils ingèrent et qui de surcroît sont de plus en plus industrialisés, ce qui ne facilite pas la tâche. On se pose des questions évidemment sur les conditions d'abattage des animaux que l'on consomme. Je vous propose, Pascal Auric, vous restez avec nous, d'accueillir Stéphane Chétrit au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur, Stéphane, d'agneau de lait des Pyrénées à Larens, dans les Pyrénées Atlantiques, dans la vallée de d'Ossau. L'agneau de lait des Pyrénées, alors c'est vraiment un produit dont vous élevez, qui est un produit traditionnel de notre patrimoine agricole et culinaire, distingué d'ailleurs par deux signes officiels de qualité, label rouge depuis 1992, IGP depuis 2012. Qu'est-ce que vous répondez, je vous cueille un peu là comme ça, Stéphane, mais j'imagine que vous aussi, vous avez à faire face à des réactions intempestives de certains consommateurs. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui trouvent inacceptable de manger de la viande d'animaux en général et de la viande de bébés animaux en particulier ?
Bon, mais moi, je vais vous dire, je réagis quand même avec beaucoup de sérénité, déjà, parce que c'est vrai, vous l'avez dit vous-même, que c'est fait un petit peu ce genre de discours pour faire culpabiliser. Alors, moi déjà, je suis quelqu'un de très tolérant et j'entends qu'il y ait des gens qui soient choqués, qui soient sensibles, qui chacun a son opinion et je suis d'une sincérité. D'une sincérité totale quand je dis que je tolère ce genre de propos et de pensées surtout. Mais à côté de ça, j'assume à 200% ma position d'éleveur. On est héritier, vous l'avez dit, d'une tradition séculaire de pastoralisme dans les Pyrénées. On peut remonter à plusieurs siècles, voire à la proto-histoire sur le pastoralisme. Donc, raison gardant aussi, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Gardons raison plutôt dans ce genre de discours. Et puis c'est un métier qui est passionné, qui est passionnant. Voilà, chacun sa vision, mais n'essayons pas de convertir non plus tout le monde à sa propre pensée. Je vais pas essayer de convertir des gens qui ont tort. Donc
Écoutons justement la réaction de Roland, je crois qu'il est en direct de Chamalières. Bonjour Roland.
Bonjour.
Dites-nous.
Eh bien voilà, moi je voulais vous dire que je ne suis pas végétalien.
Oui.
Je ne suis pas non plus végétarien. Il m'arrive de manger de la viande, c'est assez rare, mais enfin ça arrive. Mais en revanche, je ne mange absolument jamais d'agneau depuis une vingtaine d'années.
Pour quelle raison ?
Alors pourquoi ? Parce que il y a une vingtaine d'années, excusez-moi, je suis un peu ému, le sujet m'émeut quand même beaucoup.
Mmh.
Il y a une vingtaine d'années, avec mon épouse, nous étions allés en vacances au Pays de Galles. Nous faisions un sentier côtier. Et de l'autre côté de la mer, il y avait des prairies derrière des barrières. Et il y a un petit agneau qui est venu vers nous. Il bondissait, il sautillait, il jouait. Il nous accompagnait sur 300 mètres jusqu'à la barrière suivante. Et quand il nous a quittés, je me suis dit, mais comment peut-on manger, comment peut-on tuer et manger un petit être comme ça, qui vient à peine de naître? Ça me paraît absolument monstrueux. Vous voyez, je suis très ému en vous le disant. Nous autres humains, nous nous apitoyons énormément chaque fois qu'un enfant humain est maltraité. Mais nous faisons chaque année des holocaustes, littéralement, de ces petits êtres qui viennent à peine de naître.
Stéphane Chétrit, il est vrai que l'agneau cristallise un peu l'émotion des consommateurs. C'est vrai, quand on voit un agneau, on le trouve très mignon. Et forcément, on culpabilise un peu, mais peut-être plus qu'avec d'autres races d'animaux.
Oui, parce que voilà, le mouton, j'entends les propos de monsieur, c'est franchement plus facile de s'attacher, d'être attendri par un mouton que par un poulet, excusez-moi pour nos collègues éleveurs de poulet, mais voilà, l'agneau a des signes néonataux, comme le dit très bien monsieur, et effectivement c'est un piège qu'on peut être tenté de s'y laisser prendre. À présent, je pense que parmi tous nos auditeurs, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui, heureusement, qui assument. Moi, comme je vous ai dit avant, je tolère complètement qu'on ait des réactions de ce genre. Je vais pas aller passer des heures et toute mon énergie à expliquer à monsieur qu'il a tort. S'il le ressent comme ça, il le ressent comme ça.
Ouais. Et vous comprenez
après,
cette réaction.
Je vais rappeler quand même aussi une chose, c'est qu'on est, il y a des gens qui le ressentent et qui s'expriment énormément. Et des gens qui assument complètement leur position de consommer de la viande d'agneau et qui ne le revendiquent pas et qui n'essaient pas de convertir le restant de la planète à le faire. C'est un petit peu, je crois, aujourd'hui, la différence du débat, où il y a un pourcentage qui s'exprime et qui s'exhibe par rapport à leur... excusez-moi pour le mot s'exhiber, mais sur la toile, sur le web. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a aussi ces moyens de communication. Il y a aussi, faut pas le nier, des discours préétablis, puis des périodes, on n'entend parler qu'à Pâques.
Mais d'ailleurs, justement, Stéphane Chétrit, il est vrai que les végétariens, les véganes se manifestent beaucoup, mais par ailleurs, preuve que l'agneau continue à être consommé en France, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, vous êtes à l'initiative d'une démarche, d'un drive géant, et il fallait évidemment, bien entendu, trouver des débouchés à vos agneaux, et ça, la démarche localement fonctionne très bien, vous nous en dites un mot?
Oui, alors bien sûr, je vais vous en dire un mot. On s'est retrouvé le 17 mars à faire le constat que nos carnets de commandes habituels, pas que c'est un peu plus de 30% de chiffre d'affaires sur notre appellation en néo-delais des Pyrénées.
Mmh.
Parce que c'est une saison qui va de décembre à mai généralement, avec un gros pic pour l'Espagne à Noël et un gros pic pour Pâques en France. Et carnet de commandes à zéro, donc je vous disais, suite aux annonces de confinement, avec un peu la pagaille dans tous les circuits, les restaurateurs fermés, enfin tout le monde a suivi l'affaire, et il a fallu se poser la question, qu'est-ce qu'on allait faire d'un agneau qui ne peut pas excéder les 45 jours? Donc on s'est retrouvé avec en plus la double peine, on est dans la zone au Sohirati, donc avec de fromage au Sohirati, pardon.
Bien sûr.
Avec le lait qui n'allait
qu'est-ce
pas
que, dites-nous alors ce que vous avez fait.
Alors nous sommes servis de nos adhérents de coopératives comme commerciaux et nous avons proposé un drive géant sur l'ensemble du département avec 45 points de livraison et on a demandé une solidarité locale, on a insufflé la solidarité en faisant la consommation d'agneaux local et ça a fonctionné de manière spectaculaire. C'est quelque chose qu'on avait toujours pensé faire et on n'avait jamais pris le temps. Et puis les gens ont réagi et sont très contents. On a fait les dernières livraisons encore hier et les gens sont tellement contents de rencontrer des agriculteurs, d'échanger avec nous. Je veux dire, il y a eu vraiment un rapprochement.
Oui.
Comme le disait très bien votre chroniqueur en début de, d'émissions. Il y a du bien dans tous les malheurs.
Et des élans de solidarité.
Voilà.
Juste une dernière petite chose, parce que le temps presse un peu, je suis désolé, Stéphane Chétrit. Vous consommez de l'agneau à la maison aussi, j'imagine, à Pâques. Vous avez un petit truc pour votre gigot d'agneau. Un petit truc. La recette est en ligne, on n'a pas le temps de la développer. Elle est sur franceinter.fr, à la page, on va déguster. Mais en revanche, vous avez un petit truc citronné à la fin de la, la cuisson.
La petite astuce pour rendre la peau de l'agneau bien dorée et croustillante, c'est à 5-10 minutes, 10 minutes avant la fin de cuisson, augmenter un petit peu le four et puis mettre du jus de citron pur sur l'ensemble du gigot. Et là, vous avez le croustillant qui va ressortir. Ça va vraiment faire ressortir le croustillant.
J'en profite. Dites-nous juste vite.
Excusez-moi, François Régis,
je vous en prie.
Un petit peu. Donc, boutique agneau de lait des Pyrénées.com,
oui.
Voilà, c'est notre site qui reste ouvert jusqu'au mois de mai. Et la solidarité commence maintenant. Que c'était le plus facile à faire, on va dire.
Et maintenant,
le challenge commence maintenant. Donc,
ça marche.
Rendez-vous chez nous.
Le message est bien passé. Merci beaucoup, Stéphane Chétrit. À très bientôt. Je vous salue aussi, Pascal Horry. Je vous souhaite une excellente Pâques.
Merci François Régis.
Merci beaucoup de nous avoir tenu compagnie, une compagnie érudite qui nous a fait du bien en ce dimanche. Quel goulot avec justement eh bien ce gigot d'agneau de lait des Pyrénées. On vous propose quelques accords.
On va déguster sur France Inter.
Jérôme Gagnez.
Alors, je vous propose aujourd'hui un accord un peu audacieux. C'est en discutant avec vous, François Régis, que j'ai trouvé cet accord. Vous me parliez de cet agneau qui est un agneau, une viande presque blanche, extrêmement tendre. Et je me suis dit, avec cette petite pointe de citron qui est ajoutée en fin de cuisson, pourquoi ne pas essayer un blanc ? Parce que finalement, ça change beaucoup. Et réfléchissant et revenant dans mes notes de dégustation, j'ai trouvé un blanc que j'ai goûté tout récemment, que j'ai trouvé absolument formidable. C'est le Collioure Blanc Les Canadels 2018 du domaine de la Tourvieille. Le Collioure, pour nos auditeurs, c'est une appellation qui est située au sud de Perpignan, au bord de la mer, juste à côté de Banyuls, à quelques encablures de la frontière des Pyrénées, sur les contreforts du massif des Albères. Donc là, ce sont des terroirs magnifiques qui sont en terrasse, extrêmement pentus, quasiment pas mécanisables. Assis sur des sols très anciens de l'ère primaire qui sont des schistes, donc c'est les sols parmi les plus anciens dans les sols viticoles français, et vous avez là une production historique de qui se faisait de Banyuls. On pourra en reparler sur le chocolat tout à l'heure. La consommation de Banyuls a considérablement baissé. Et donc, finalement, les vignerons se sont tournés vers la production de vins secs, notamment les vins rouges, avec la naissance de l'appellation Collioure, qui est exactement sur les mêmes zones que l'appellation Banyuls en 1970. Et puis ensuite, cette appellation s'est ouverte en 2003 au blanc. Et en fait, c'est des très beaux terroirs de blanc. C'est des terroirs d'altitude, et c'est des terroirs qui sont très intéressants. Alors, notre Collioure Blanc, les Canadels 2018, eh bien, c'est un assemblage de 40% de grenache gris, de 30% de grenache blanc, de macabeu et de roussane. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de grenache gris, et c'est un cépage qui est très intéressant parce que c'est un cépage qui apporte de la fraîcheur dans les vins, qui apporte une aromatique bien particulière. Et je pense que ce vin, avec son ampleur, sa richesse, il y a du gras, il y a du volume. Ce qui est très intéressant, c'est que on a connu tous beaucoup de Collioure qui était lourd, qui était épouvantablement encombrant. On a ici un vin, et puis il y a eu un contrepoint qui a été fait sur ces vins très lourds, c'est que les vignerons se sont mis à récolter des raisins pas mûrs, pensant qu'ils allaient préserver de l'acidité. C'est un fait, c'est vrai, mais d'un autre côté, on perdait tout le caractère méridional qui est très intéressant dans un Collioure blanc. Et donc, Vincent Cantier et Christine Campadieu, au domaine de la Tourvieille, eh bien, ils ont, à mon avis, trouvé exactement le bon juste milieu, c'est-à-dire des raisins qui sont mûrs, un vin qui est ample, qui est riche, qui a du gras, qui est bien méridional dans son esprit, qui est fier de ce caractère méridional, et avec ce qui est apporté notamment par les grenaches gris,
oui.
Des amers magnifiques qui tiennent le vin, qui sont la structure du vin, et c'est ce qui nous donne un très bel accord avec cet agneau.
Merci beaucoup. Donc, pour cet accord.
Les Canadels 2018,
merci.
Ça vaut 15 euros au domaine.
Merci.
Ils expédient pendant le confinement.
Merci Jérôme Gagnez. De l'agneau pour Pâques, d'accord, mais quelle sauce alors ? Êtes-vous plutôt mine sauce, crème d'ail ? Aimez-vous la sauce sans la viande, mais plutôt avec des légumes par exemple ?
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson envoie la sauce.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait un poulet vendredi, donc il me reste du poulet froid. Ce sera ça mon repas de Pâques. Mais tout va bien pour moi. Soyez pas triste, hein, parce que j'ai sous le coude trois petites sauces assez magiques qui iraient très bien avec de l'agneau, mais qui vont bien avec tout. Alors, vous parlez de la mint sauce à l'anglaise. C'est ce qu'on sert traditionnellement en Grande-Bretagne avec le gigot, mais aussi avec les lamb chops, vous savez, les côtelettes d'agneau. Et elle est si populaire qu'on la trouve carrément au supermarché au rayon en ketchup. La vraie mint sauce, elle se prépare ainsi. On hache de la menthe, on met du sel, du sucre. On verse de l'eau bouillante dessus, on mélange, on laisse refroidir et on ajoute du vinaigre de vin blanc. Et c'est top. Et vous savez avec quoi ce sera très bon? Avec des pois chiches en salade ou avec des pois chiches rôtis au four ou même des petits pois. Traditionnellement, on mange l'agneau avec une crème d'ail. Enfin, ça se fait. Et vous me connaissez, François-Régis, je fais une sauce blanche inspirée de la sauce Tarator.
Ah oui, alors.
Ail, tahine, citron.
Sel,
poivre et un peu de yaourt. C'est la base de mon alimentation. Ma question, c'est pas tellement avec quoi la servir qu'avec quoi ne pas la servir. C'est parfait avec des légumes rôtis, je dirais même avec du poisson. En ce moment, on trouve du merlu de ligne issu de la pêche artisanale. Bah, pourquoi pas?
Ouais.
Et pour finir, une sauce un peu étrange, un peu barrée. C'est la spicy cashew dressing qui nous vient des États-Unis, qui est une sauce qu'on mange beaucoup avec des salades type romaine, avec des carottes râpées, et ça va très bien avec toutes les salades amères. Hyper simple, noix de cajou grillée et salée, mixée avec de l'huile de tournesol, du vinaigre de riz, un petit peu de piment rouge sec en flocons, genre chili flakes, de la sauce poisson, du miel, une gousse d'ail.
Merci beaucoup. Merci. Et bah écoutez, ces trois sauces sont également en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Elvira.
On va déguster. Sur France Inter.
C'est drôle la vie. On n'était pas riches à la maison. Les tangos, les cloches ne m'ont jamais rien apporté. Vous êtes mon premier cadeau de Pâques. C'est un miracle.
Je suis le lapin de Pâques.
Allez hop.
Et nos lapins de Pâques aujourd'hui, il y a Elvira Masson, notre chroniqueuse, qui est toujours en notre compagnie pour cette deuxième heure. Et notre chroniqueuse Esther El Payani nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour François-Régis.
Comment ça
se passe? Je vous parle en direct de ma cuisine. Je viens juste de donner son petit déjeuner à mon levain, parce que c'est mon nouvel animal de compagnie en ce moment. Je le nourris d'eau et de farine tous les matins pour qu'il me fasse de belles brioches. Je crois qu'on est nombreux en ce moment à s'être lancés dans cette aventure.
C'est Kerenan d'ailleurs qui comparait le levain, la chanteuse Kerenan qui nous parlait de son pain maison et qui comparait le levain justement à un animal de compagnie qui le suivait partout dans le monde. Merci Estherelle, on vous retrouve tout à l'heure pour fêter une Pâque très orthodoxe. Pour entamer cette deuxième heure avec nous, une voix de France Inter qui a fait son cooking out depuis très longtemps. C'est Dorothée Barba, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous animez les Barbatrucs du lundi au vendredi à 7h15 dans la matinale. Ou comment occuper intelligemment ses enfants? Ben écoutez, ça tombe bien. Vous avez deux garçons, sans trahir de secret. Comment ça se passe en ce dimanche de Pâques?
Bah écoutez, on a caché les œufs. Pour tout vous dire, on l'a fait hier parce qu'il faut que je trouve des occupations quand même. L'ennui n'est jamais très loin avec ce confinement. On l'a fait hier dans notre petit appartement. Évidemment, c'est moins fun que chez les grands-parents. Mais je m'aperçois qu'ils ont une force de résilience assez impressionnante parce que ça leur allait très bien. À vrai dire, ça déprime surtout les parents, je crois, ce confinement.
Bientôt, vous allez fêter Noël début mai, non?
Exactement, voilà. On prend de l'avance, on s'occupe, on fait comme on peut, François-Régis, franchement.
Et je crois, Dorothée, que vos œufs de Pâques ont plus la forme de boulettes, et ils ont même un peu le goût de pois chiche.
Exactement. Je suis abonnée à un panier de légumes bio locaux toute l'année d'habitude. Alors évidemment, c'est suspendu là à mon grand dam depuis un mois. Mais il y avait parfois des pois chiches dans ce panier bio. Et je vous avoue que les pois chiches, ça me disait trop rien. D'autant que c'est sec, alors on se dit, on les met de côté, on verra plus tard. On mange plutôt les trucs qui sont urgents à manger, donc les légumes frais. Donc j'avais dans mon placard un stock impressionnant de pois chiches. Et le confinement, vous savez ce que c'est? On farfouille dans les placards, donc j'ai trouvé tous ces pois chiches. Et j'ai eu l'idée d'essayer de me lancer dans des falafels, donc des croquettes de pois chiches. J'avais jamais essayé, et en fait c'est d'une facilité déconcertante.
Comment vous faites, Dorothée?
Alors d'abord, je les ai fait tremper. C'est, ils sont secs. Hein, on peut, ça marche aussi avec évidemment des pois chiches en bocaux qui sont déjà cuits. Mais les miens étaient secs, donc je les ai fait tremper 24 heures dans l'eau. Mm-hmm. Ça gonfle un peu. Ensuite, je les ai fait cuire à la cocotte minute 45 minutes environ. Et après, je les ai mixés avec du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive. Mm-hmm. Et puis moi, j'ai mis des légumes, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai mis des poireaux. J'ai fait fondre préalablement les poireaux avec du beurre à la poêle. J'ai mixé ça avec du persil, de la coriandre, parce qu'il y en a au bord de ma fenêtre.
Hein, et il faut des herbes fraîches pour cette spécialité levantine.
Ouais. Voilà, donc moi j'ai plein de persil sur ma fenêtre, donc j'en ai mis pas mal. J'ai mis un petit peu de piment d'Espelette aussi pour ma part. Je pense que ça marche aussi avec du cumin. Enfin, en fait, on fait un peu tout ce qu'on veut, quoi. J'ai tenté aussi avec des carottes la fois d'après, parce que vu que j'avais plein de pois chiches, j'en ai fait plein de différents. On mixe le tout. Ensuite, quand on a une pâte un peu homogène, il faut mettre un peu d'eau dans le mixeur hein, pour que ça tourne comme d'habitude, pour que ça tourne bien. Et une fois qu'on a une pâte à peu près homogène, il faut le mettre au frigo environ une heure pour que ça soit plus facile à modeler. Uh-huh. Et ensuite, c'est la phase la plus rigolote, bien sûr. On fait des boulettes avec ses mains. Moi, je les ai roulées dans de la chapelure parce que j'avais de la chapelure aussi dans mon placard.
Très bien.
Et ensuite, je les ai fait frire à la poêle dans une très généreuse couche d'huile. C'est un régal.
Et je suis sûr que vos garçons ont adoré.
Eh ben alors non, il faut dire la vérité, François Régis, ça a plu surtout aux adultes.
Oui.
Franchement là, c'était pas très, non, c'était pas une réussite pour les enfants.
Et
c'est
pourtant,
pas grave.
Il paraît qu'ils sont très bons. Vos falafels, la recette sur franceinter.fr à la page on va déguster. Merci beaucoup Dorothée. Et on se retrouve, à 7h15 dès lundi hein, pour vos barbatrucs. Merci.
Exactement.
Dorothée.
On occupe les enfants intelligemment et de façon pas trop rasoir si possible.
C'est ça. Merci beaucoup. Dans un instant, des recettes de choc après une petite caipirinha mélangée et servie par Joe Joa et Lieutenant Nicholson. Buvez frais sur France Inter.
Sa caipirinha, pas de soleil.
Gourmande au menu dont va déguster XXL. Nous avons Florence au téléphone.
Bonjour François Régis.
Bonjour.
Je m'attaque à vous et votre équipe.
Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où ?
De Paris, centre de Paris. Je suis confinée dans la rue de Serge Gainsbourg. Voilà.
Et je crois que vous avez une recette sucrée, une recette pascale à nous confier.
Tout à fait. Je vous propose aujourd'hui, alors c'est une recette pas vraiment pascale, mais c'est une recette surtout de confinement, qui fonctionne très bien avec mes enfants. On ne sait jamais quoi faire des bananes hein, qui traînent et qui deviennent toutes noires. Eh bien, chez nous, depuis que les enfants sont tout petits, on en fait un banana cake, c'est-à-dire qu'on les écrase avec un peu de lait. Ensuite, on met des œufs, du beurre fondu, de la farine, un peu de levure, levure chimique. Et on en fait un délicieux banana cake qui cuit assez rapidement. Alors avec les années, j'ai baissé la quantité de sucre et en fait ce que je fais, c'est que je rajoute sur le dessus avant de le mettre en cuisson une cuillère de sucre. Et en fait, ça fait une croûte et ça lui fait en fait comme s'il y avait une croûte vraiment très généreuse sur le dessus et qui croque quand on... Donc il est fondant et en même temps, il y a ce petit croquant sur le dessus.
Le banana cake, et les enfants adorent.
Comment ?
Et les enfants adorent.
Exactement, c'est une recette hyper facile et les enfants la font eux-mêmes maintenant. J'ai plus qu'à mettre au four et ils se débrouillent.
Je lis dans votre message que vous avez été touchée par le Covid-19.
Oui, tout à fait. Écoutez, je vais mieux, maintenant j'en suis à la fin et vraiment, il faut rester confiné, rester chez soi. Et ça, c'est important et c'est une recette que mes enfants ont fait quand j'étais malade, voilà.
Ah, et qui vous a du coup apporté du réconfort ?
Exactement, c'est de la comfort food et quand on n'a plus rien dans son frigo et plus rien, c'est pratique à faire et c'est vraiment facile et sympa.
Merci beaucoup Florence pour votre recette de banana cake. Et ben justement, en parlant de comfort food, cuisine de réconfort en bon français, nous accueillons à présent le spécialiste en France de la pâtisserie et de la cuisine chocolatée, c'est Frédéric Beau, bonjour.
François-Régis, bonjour, merci pour l'invitation.
Je vous en prie, vous êtes chef pâtissier de la maison Valrhona et vous signez aussi Simplement Chocolat, un formidable recueil de recettes qui sont raffinées et accessibles et publiées aux éditions Albin Michel il y a un mois. C'est vraiment un livre tout frais, tout récent. On va évoquer avec vous dans un instant notamment une super recette de gâteau au chocolat. Mmh. Figurez-vous que je l'ai fait, votre gâteau, il est avec moi. Je suis tout seul dans le studio 521 de la maison de la radio et votre chocolat
je l'ai
classique.
Fait aussi, François-Régis, je l'ai fait aussi.
C'est une tuerie. Ah, c'est extraordinaire la recette dans un instant. Je pense qu'elle va séduire de très nombreux auditeurs. Mais juste avant, je le disais, vous êtes fidèle à la maison Valrhona. Je crois que ça fait depuis plus de 30 ans. Valrhona étant une entreprise française située à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. En temps normal, vous fournissez des artisans. Quel est l'impact là de la crise sanitaire sur votre maison, sur la maison Valrhona ?
Alors, Valrhona, nous sommes fermés actuellement. On a une chance dans notre malheur, c'est que les artisans sont... Valrhona ne vit que des artisans, des pâtissiers, des chocolatiers, des restaurateurs, des boulangers. Et pour ce qui est du chocolat, c'est principalement la mission des chocolatiers et des pâtissiers. Eh bien, le chocolat avait été déjà livré depuis pas mal de temps. Les artisans avaient commencé déjà à le transformer. Hélas, ils ont fermé quand a été annoncé ce virus. Et là, ils se sont mis à réouvrir. Donc, par chance, on est très très content de voir que les artisans peuvent vendre de leur chocolat, leur création, peuvent donner du bonheur dans les maisons où tout le monde est confiné, mais certes en famille. Et je trouve que c'est peut-être des moments un peu extra-ordinaires de passer Pâques aussi confinés, mais aussi bien les uns avec les autres. Donc, le chocolat, le business du chocolat sera évidemment pas le même, mais il ne s'agit pas que de parler de business. Mais on a aidé avec Valrhona, on s'est gratté la tête depuis 3 semaines pour savoir ce que nous pouvions faire pour aider les artisans. Et grâce à une entreprise géniale, on a créé une carte solidaire des artisans qu'on appelle la MAP pompeusement parce que A d'artisan, A de action. Et donc c'est la MAP des artisans et on retrouve ça sur internet et l'idée c'est de pouvoir aider à travers cet outil les artisans à se faire connaître, à se faire reconnaître du grand public qui peut aller en un clic trouver quel est l'artisan plus proche de lui qui est ouvert, qui pâtisse, qui crée et qui puisse régaler tous les gourmets à la maison.
On a mis en ligne d'ailleurs cette carte, la MAP, on comprend que MAP en anglais veut dire carte, sur le site de l'émission. C'est un outil numérique effectivement qui recense tous les artisans de bouche, qui maintiennent une activité, qui permet aux consommateurs de se géolocaliser, de repérer les artisans autour de chez lui, avec toutes les précautions sanitaires. Il y a déjà 1820 artisans référencés, c'est considérable. Vous-même, Frédéric Beau, à titre personnel, vous animez également une association caritative que vous avez directement tournée vers... pour venir en aide pendant la crise sanitaire à différentes populations.
Oui, lors du tsunami, Rika, ma femme, est japonaise, et quand il y a eu le tsunami, avec tous mes amis restaurateurs ici, à l'époque nous avions deux restaurants encore avec Rika, et je me trouvais un peu très généreux, mais à la fois très ridicule qu'on ait chacun nos petites cagnottes à récupérer nos petits euros, et je me suis dit que probablement l'union faisait la force, et que
et que comme chez Valronard, on est ensemble, on est toujours plus fort. Et je me suis dit, et si on faisait un grand spectacle, une grande fête pour récupérer beaucoup d'argent, parce que Ishitomaki, là où on a tous vu la grande vague noire, c'était là où il y a eu les plus grands désastres, des pêcheurs, des familles de pêcheurs entiers ont disparu. Et donc on s'est dit, on va créer cette association. Éric Antoine est venu, Dany Larry, etc. Et on a donné beaucoup d'argent à Ishinomaki, on est allé et moi. Et là, notre devise étant l'amour, le goût de la vie et des femmes et des hommes en détresse, je me suis dit, si on fait crever des artisans, c'est déjà des filières qui sont pas toujours faciles et qui vont pas toujours très bien, les petits producteurs, les micro-TPE, les agriculteurs, les éleveurs, les restaurants ferment, les pâtisseries ferment. J'ai appelé mes amis, Cyril Jamais, avec qui j'ai créé l'association, j'ai dit, allez, remettez-vous au boulot, réouvrez les cuisines, réouvrez les labos, et on va faire un drive, on va participer au confinement pour éviter que les gens aillent dans 8 boutiques chercher leur fromage, leur viande, leur gâteau, leur chocolat, leur pain, et on a très vite, grâce à Intermarché, à l'Ermitage, mon ami qui nous a donné l'hospitalité, on peut vous donner
rendez-vous sur ce drive.
On a mis des frigos et hier on a eu 420 commandes. Et en fait voilà, donc on retrouve tout ça sur le www.coeurgourmand.fr. Oui. Tous les artisans. On passe commande chez eux, et puis le lendemain matin à 11h, en fait, on a fait un peu une super conciergerie, comme dans les grands palaces à Paris, mais on est à plein d'Ermitage.
C'est ça, avec des producteurs locaux, formidable initiative solidaire. Oui. Merci beaucoup. Allez, il nous tarde de se mettre en cuisine avec vous pour une recette, mais pas n'importe laquelle. Plaisir. Je vous l'ai dit, je l'ai fait à la maison, c'est une espèce de... Bon, c'est un gâteau au chocolat, évidemment, il est très épais, il a cette caractéristique étonnante de présenter une croûte un peu croustillante, oui, voire un peu mousseuse, et un cœur extrêmement fondant. Il n'est pas particulièrement gras, mais qu'est-ce qu'il est bon. Je crois qu'il cartonne d'ailleurs au Japon.
C'est ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent, je trouve, chez les artisans pâtissiers en France. Les Japonais, quand le tableau est blanc, tout est permis, il n'y a pas de frein psychologique, d'histoire. Mm-hmm. Les Japonais en font dans toutes les pâtisseries artisanales.
Ce gâteau-là.
Il semble que même Thierry Rémy en fait chez lui, au Japon, on appelle ça le chocolat classique. Alors, il a la bouille que vous avez probablement devant vous. Ouais. Et moi, je vous ai envoyé une petite photo ce matin.
François, oui, on va les mettre sur le site, absolument.
Et je me suis dit, tiens, François Régis, il a dû le faire bien comme la photo dans le livre, puisque nous nous sommes parlé hier. Et moi, je lui ai dit, tiens, je vais le faire version nid de Pâques, comme ça donnera des idées, comme quoi, une recette, ben, on change le moule, on en fait un nid, on fait des petites, et puis voilà, je vous ai envoyé la photo,
et elle est très,
avec la petite créativité, ça va vite.
Elle est très belle, votre photo. L'avantage de ce gâteau aussi, c'est qu'il se fait assez facilement, à condition d'avoir un batteur pour monter des blancs en neige. Mais racontez-nous les étapes en un mot.
J'ai monté les blancs à la main, François.
Ah oui, d'accord, mais enfin, ça, c'est pas à la portée de tous, hein. Désolé, Frédéric,
parce que pendant qu'on est confiné, faut se muscler quand même.
Ouais, voilà, faut se muscler, on se fait surtout une tendinite au biceps, c'est super.
Un bras.
Mais dites-moi, en un mot, les principales étapes, on peut se reporter évidemment sur notre site pour la recette.
Dans le chocolat classique, il y a deux choses hyper importantes, j'appuie dessus, c'est pour que la texture soit géniale, qu'on n'ait pas un soufflé chocolat qui monte énormément, qui redescende, qui se tasse et qui soit pas bien, c'est monter les blancs au bec d'oiseau, ça veut dire pas trop, mais lentement. Mm-hmm. Et puis, le principe d'émulsion du chocolat, une émulsion, c'est une mayonnaise, on ne verse jamais un litre d'huile en une fois pour faire une mayonnaise, parce qu'on sait toutes et tous que ça rate. Ouais. Et bien, pour le chocolat, dès lors qu'on y verse dessus du lait, de la crème, peu importe, quelque chose de mouillé, on ne peut pas avoir un mélange aussi délicat, fin et soyeux si on ne fait pas d'émulsion, c'est-à-dire peu importe le liquide versé en 3 ou 4 fois sur le chocolat fondu, on a une mayonnaise chocolat, ça s'appelle une ganache.
C'est ça.
C'est de là que naît la magie de toutes les mousses, les sauces chocolat, et en particulier la texture géniale, mousseuse, émulsionnée.
On est entre la mousse au chocolat, le gâteau au chocolat plus fondant avec un cœur un peu crémeux. Il est incroyable ce gâteau, je suis en train de me le faire tout seul là. D'habitude je partage avec mes amis, mais comme je suis tout seul confiné dans mon studio, je n'ai pas tellement le choix, je me réconforte avec votre gâteau.
Non,
pas de modération aujourd'hui pour le gâteau au chocolat, ça je vous le garantis. On devait parler également, mais ce sera sur le site car le temps presse un petit peu malheureusement, cher Frédéric Beau, mais on pourra retrouver également la recette sur le site de la mousse au chocolat de Mamie Paulette.
Oui.
Paix à sa mémoire.
Je plaisantais toujours, il y a l'ami Molette et il y a mamie Paulette. En fait, mamie Paulette s'appelait Geneviève.
C'est ça.
Mais c'était ma mamie, elle faisait de la mousse. Et là encore, on retrouve les mêmes secrets dans la mousse. Avec un petit secret en plus quand même, c'est que on ne fait pas une mousse chocolat aujourd'hui pour aujourd'hui. Il lui faut laisser le temps de se cristalliser. Le beurre de cacao est une matière grasse extrêmement feignante. Il faut au moins 10 heures, idéalement une nuit de cristallisation. Et là, la mousse devient magique.
C'est ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, mon cher Frédéric Beau, et on vous retrouve très bientôt sur les ondes de notre émission. Vous êtes formidable
merci
quand vous nous
beaucoup.
Parlez chocolat.
Vous êtes tout seul et à tous les auditrices et les auditeurs.
C'est très gentil. Comment imaginer un accord entre le chocolat et le vin? Eh bien, justement, on va en parler avec notre chroniqueur.
On va déguster sur France Inter.
Jérôme Gagnez.
Alors, puisque vous parliez de modération à l'instant, je peux vous dire que j'ai eu de ses nouvelles. Elle est en confinement, elle ne sort plus de chez elle. Hein, donc tout va bien. Pour ce qui est de l'accord mets vins, c'est un accord très très classique chez les sommeliers, mais tout le monde ne connaît pas. Donc je voudrais revenir dessus. C'est le vin doux naturel. Donc petite précision, le vin doux naturel, c'est là en l'occurrence nous allons parler d'un rasto, le rasto Grenat. Du domaine du Trapadis dans le millésime 2017, c'est un petit peu l'équivalent, disons que c'est un vin qui est produit de la même façon qu'un Porto, qu'un Banyuls, qu'un Mory. Ce ne sont pas des vins cuits, ce sont des vins mutés. Autrement dit, ce sont des raisins qu'on récolte bien mûrs, ensuite on les vinifie comme pour faire du vin rouge, et puis quand on arrive à peu près à la moitié de la fermentation, pas tout à fait, on va ajouter un alcool neutre, qui est très chargé d'alcool, 96 degrés, ça va stopper la fermentation. C'est ce qu'on appelle le mutage. Et c'est ce qui fait que on garde beaucoup de sucre dans le vin, et c'est ce qui rend le vin liquoreux. Donc ça ne sont pas du tout des vins cuits. Je vous parle de ce vin doux naturel qui est à Rasto, dans le Vaucluse. On est vraiment au cœur de la vallée du Rhône méridionale, parce que ça fait un des plus beaux accords qu'on puisse imaginer avec le chocolat. Le fruit rouge, très intense, la cerise confite, que l'on perçoit dans ce rasto grenat du domaine du Trapadis, accompagne admirablement le chocolat, l'aromatique du chocolat, de la même façon que la puissance, la richesse du sucre, tempérée par une très belle trame tannique très fine, viennent chercher l'amertume du chocolat. Donc ça fait un très bel accord qui permet de révéler la puissance du chocolat et qui ne détruit pas le vin. Et à l'inverse, on a vraiment cette fusion des arômes, chocolat et fruits rouges confits en bouche. Donc c'est une petite merveille. Ça s'appelle le Rasto Grenat 2017 du domaine du Trapadis. C'est Hélin Durand qui fait ce vin. Il est en bio. C'est un domaine absolument formidable que je vous invite à visiter. Il expédie aussi pendant le confinement et ça vaut 15 euros les 50 centilitres. C'est un excellent rapport qualité-prix.
Merci pour ce super conseil, Jérôme Gagnez. Chocolat et vin de Rasto, ça nous plaît. On va essayer en ce dimanche de Pâques. Son Little Hey Rose sur France Inter.
There's a big brass band in the park today. The low notes speak what my mouth can't say. Can I read you every letter, turn you every page? Can I hold you till these dark dreams fade? Hey, Rose, your soul is a picture, but your body is a frame. But the frame is exquisite.
Thank you. On va déguster XXL en direct jusqu'à 11h sur France Inter. On parlait pois chiche à l'instant avec Dorothée Barba. Et bien, depuis le bouton intervenir sur l'appli mobile de France Inter, Cécile de Firmas nous dit « Je voulais juste vous signaler que dans ma région natale, l'Hérault, et plus particulièrement Clermont-l'Hérault, il y a une tradition, les pois chiches le vendredi saint. Tout simplement cuit et mangé chaud avec une vinaigrette. La recette arrive un peu tard, il faudra attendre un an. Mais en tout cas, elle nous plaît cette recette. Et des pois chiches, il en est beaucoup question également dans la cuisine juive. Et notamment la cuisine séfarade, ça tombe bien. Pessar, la Pâque juive, tombe cette année en même temps que la Pâque chrétienne. Pessar a commencé le mercredi 8 avril et sera fêté dans la communauté juive jusqu'à jeudi prochain, le 16 avril. Et on se rend compte qu'il y a souvent de grandes dames derrière ces traditions gourmandes juives, n'est-ce pas, Elvira Masson?
Ah bah c'est exactement ça, et en parlant de grandes dames, vraiment... Claudia Roden en est une. Mmh. Je me suis replongée dans ses livres ces derniers jours, sans doute comme vous le disiez, parce qu'à l'approche de Pâques, son travail sur les cuisines espagnoles, italiennes, moyen-orientales ont une pertinence encore plus forte. Elle était d'ailleurs venue nous en parler au moment de la traduction en français de son livre sur la cuisine juive que vous citiez chez Flammarion. Parfaitement francophone, Claudia Roden écrit en anglais depuis plus de 60 ans, quand elle et sa famille ont fui l'Égypte au moment de la crise de Suez pour s'installer en Angleterre. Elle date de ce départ forcé, son attachement à la cuisine, à la mosaïque de goût qu'était l'Égypte de son enfance, et aux conversations de ses familles installées à Londres qui s'échangeaient des recettes venues du Caire, mais aussi d'Alep, d'Izmir, d'Istanbul. Sans cet arrachement, elle ne serait pas devenue, selon ses propres mots, cette collectionneuse obsessionnelle de recettes qui a largement contribué à faire connaître la cuisine moyenne-orientale en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Et oui.
Sans Claudia Roden, le houmous et les falafels, même les falafels de Dorothée Barba, n'auraient pas connu cette popularité. C'est pas moi qui le dis, c'est Yota Motolenghi. Vous pouvez ouvrir n'importe quel livre de Claudia Roden à n'importe quelle page. Ce que vous y trouverez, ce sera un paysage et une histoire, la grande comme la petite, et un pan de tradition orale enfin consigné. J'ai repensé ces derniers jours à l'une de ses recettes les plus célèbres. D'ailleurs, je vais la faire dès que je vous aurai quitté. C'est le gâteau à l'orange d'origine judéo-espagnole que l'on prépare pour Pessar, car il ne contient pas de farine. Ce sont des oranges entières cuites à l'eau pendant 2 heures, mixées entièrement avec la peau, le zeste et tout, avec de la poudre d'amande, des œufs, du sucre et hop au four. Claudia Roden est toujours passionnante à écouter. J'ai mis sur le site un lien vers une conférence qu'elle a faite en décembre 2019, tout récemment. Est-ce que je peux terminer en citant un petit extrait ?
Bien sûr.
Quand je voyage, au fil des rencontres, je note mot à mot les recettes que l'on me confie. Mais je demande toujours aussi à ce que le plat que l'on cuisine pour moi soit dressé et servi à table. Car une recette est bien plus qu'une liste d'ingrédients et la somme de ses étapes. C'est une histoire avec un passé qui lui est propre. Alors je pose des questions. Quelle est votre région d'origine? Quel était le métier de vos parents? Car c'est finalement d'une vie que l'on parle quand on évoque une recette. On le fait juste avec d'autres mots.
C'est beau.
Ouais.
Claudia Roden, formidable dame de
grande
la cuisine
dame.
Juive, avec un livre référence qui avait été édité il y a quelques années chez Flammarion. Et on l'avait reçu d'ailleurs, vous vous souvenez Elvira, à l'occasion d'une émission?
Oui, absolument, en 2012.
Nous devons avoir Perla Servan-Schreiber, mais nous avons des petits problèmes, on n'arrive pas à la joindre malheureusement. Vous aimez bien la cuisine de Perla justement, Elvira?
J'adore sa cuisine et j'adore la personne. C'est une personne d'une rare élégance. En ce moment, je fais une de ses recettes, comme il faisait plutôt doux. C'est une recette d'été, une recette que j'adore. C'est son gazpachiche. C'est une soupe froide, tomate, pois chiche.
Ben voilà, le... quand Elvira parle, les pois chiches sont jamais très loin. C'est ça que j'adore.
C'est vrai.
Merci beaucoup. Merci Elvira. On va tenter d'avoir Perla si elle nous répond au téléphone. Nous avons en revanche, elle est bien au téléphone, c'est une auditrice et elle s'appelle Orane. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez une petite recette à nous confier. Il est question de mousse au chocolat, ça tombe bien.
Parfaite pour les confinements.
Oui.
Oui, parce qu'il n'y a pas de sucre, pas de lait et pas de beurre. Vous achetez une tablette 80% de cacao, bio, AB, chocolat noir, et que vous découpez en petits morceaux, vous passez les petits morceaux de chocolat dans une casserole, vous ajoutez un petit peu d'eau et vous faites fondre. Quand le chocolat est fondu, vous le transvasez dans un saladier et vous laissez refroidir le chocolat. S'il est bien froid, vous battez des œufs en neige, alors soit dans l'esprit, soit à la main, vous battez 4 œufs en neige.
Ouais.
Et vous séparez bien sûr le jaune, vous ne mettez pas le jaune.
Oui, oui, bien sûr, que les blancs.
Et vous mélangez. Alors, vous ne mélangez pas le chocolat avec le blanc d'œuf, mais le blanc d'œuf avec le chocolat, pour éviter que le blanc d'œuf donc le tombe et devienne liquide. Et légèrement, tout doucement, l'équivalent d'une cuillerée à soupe. Vous incorporez donc le blanc d'œuf au chocolat. Vous en faites une mousse. Et ensuite, vous mettez au frigo pendant une heure. Et il va se cristalliser, ça va devenir pas très délicieux. Vous pouvez manger ça avec une glace à la vanille ou le manger avec une tasse de café. C'est un accompagnement sain, délicieux, qui n'est pas écœurant et qui maintient en forme parce que comme il n'y a pas de sucre.
Ben voilà, donc, elle fait envie cette mousse.
Et le chocolat contient naturellement du sucre. Hein,
alors, paraît,
80%, c'est un minimum de cacao parce que ça renforce le goût du chocolat, le fait de mettre du blanc d'œuf et ensuite de le laisser de cristalliser au frigo.
Merci. Voilà. Donc faut imaginer une texture à la fois mousseuse et légèrement crépitante, un peu croustillante, c'est ça, Orane?
Voilà, c'est ça.
Ben écoutez, je vais pas être le seul à l'essayer.
C'est très bon.
Je vais pas être le seul à essayer cette recette de mousse au chocolat. Merci beaucoup, Erane. Nous n'avons pas Perla au téléphone. Eh bien, de Pessard, la Pâque juive, on passe à la Pâque orthodoxe.
France Inter. On va déguster.
Joyeuse Pâque orthodoxe, Estelle.
Joyeuse Pâques à vous, François-Régis, mais tout de suite, je vais vous demander d'attacher votre ceinture.
Oula, pourquoi ?
Pour vous emmener, virtuellement bien sûr, au soleil de Grèce, parce qu'on va fêter Pâques à l'orthodoxe. Et on est même dans les temps pour les préparatifs, puisque cette année, elle tombe dimanche prochain, le 19 avril. Parce que les églises orthodoxes suivent en effet le calendrier julien et pas le calendrier grégorien, sauf en Finlande. En tout cas, quand c'est Pâques, on ne peut pas faire la fête sans casser des œufs. Alors avant, on en dévorait plutôt des œufs durs que des œufs en chocolat. Et en Grèce, en Arménie et dans plein de pays, ce sont toujours des œufs durs qu'on offre, mais ces œufs sont teintés en rouge. L'œuf symbolise la vie, et le rouge, ça rappelle le sang versé par Jésus. En Grèce, il porte le nom de kokina avga. Alors pour les faire chez vous, c'est pas compliqué, mais la liste des ingrédients va un peu vous surprendre. Car en plus des œufs, il va surtout vous falloir une bonne dizaine d'oignons. Ce sont leurs pelures qui vont servir de teinture. Donc, soit vous gardez toutes vos pelures de la semaine, et mieux vaut commencer maintenant pour dimanche prochain, soit vous prévoyez bientôt au menu une tarte à l'oignon, une carbonade flamande ou une pie saladière pour en avoir assez sous la main. Donc pour teindre vos œufs, vous allez d'abord faire une petite décoction faisant bouillir ces pelures dans un bon litre d'eau.
C'est le dimanche des problèmes techniques. On a perdu malheureusement Estherelle. On va essayer de la joindre à nouveau, mais là visiblement ça fait zigouigoui. Et je pense qu'elle est, elle est partie en Grèce, hein, à mon avis. Et ça ne capte plus. C'était pour une fête orthodoxe. Et écoutez, je vous propose à présent de retrouver. Allez, on va se mettre un peu au calme. Une petite récréation littéraire, celle de Vincent Josse. Chaque dimanche, Vincent nous plonge dans une petite joie gourmande de la littérature française. Et cette semaine, il nous sert quelques vers. Vers, je précise, signé Raoul Ponchon, qui est un homme de lettres et de table, membre de l'Académie Goncourt, qui s'est fait connaître dans les années 20 avec son recueil de vers La Muse au cabaret. Il y rend un hommage singulier au Gigot d'agneau.
Quand le gigot paraît au milieu de la table, fleurant l'ail et couché sur un lit respectable de joyeux haricots, l'on se sent beaucoup mieux. Un charme vous pénètre, tout un chacun voyant son appétit renaître aiguise ses chicots. Une servante brave vient d'entrer dans ses bras, portant robuste et grave ce fardeau précieux. Alors l'amphitryon, le père de famille, se demande, tandis que son œil le fusille, sera-t-il cuit à point ? Il l'est, n'en doutez pas, et chacun le proclame dès qu'il a vu plonger une invincible lame dans son doré pourpoint. Son sang de tous côtés ruisselle en filets roses, sa chair est admirable et ferait honte aux roses. Le plus indifférent des convives, muet tout à l'heure et morose, s'épanouit du coup, débite maintes proses, devient même encombrant. L'un voudrait du saignant, l'autre du cuit, problème qui n'est pas difficile à résoudre, un troisième hésite entre les deux. Le propre d'un gigot, cuit selon le principe, étant de satisfaire au goût de chaque type, serait-il hasardeux ? Quelquefois on cause art, science, politique, la conversation prend un tour emphatique, qui n'est pas sans danger. Arrive le gigot, adieu les grandes phrases, chacun à son voisin dit « assez, tu me rases, parlons donc de manger ».
Le gigot cuisiné en verre par Raoul Ponchon, et je vous signale que c'est à Raoul Ponchon que l'on doit d'ailleurs aussi cette phrase mythique « Quand mon verre est vide, je le plains ». Quand mon verre est plein, je le vide. Merci à Vincent Josse pour sa lecture. Vincent, dont on retrouve une rediffusion du Grand Atelier tout à l'heure à 15h sur France Inter, consacrée à François Truffaut. Merci aussi à Stéphane Solier, professeur agrégé de lettres classiques, qui nous aide chaque dimanche à faire le choix de ces petits morceaux de littérature gourmande. Est-ce qu'Estérel est à nouveau avec nous?
Ben oui, je ne suis pas sortie de ma cuisine.
Non, vous étiez partie en Grèce en fait, c'est pour ça.
Ben oui, c'est ça, j'avais eu trop envie, ou ça sentait trop fort les oignons chez moi.
Nous en étions à des œufs rouges qui sont justement très traditionnels de la Pâque orthodoxe, notamment en Grèce.
Donc voilà, ces œufs pour les faire. Donc on fait cette petite décoction dans de l'eau avec du vinaigre blanc. On la fait cuire 30 minutes, puis on filtre et on met ensuite les œufs à tremper 20 minutes dedans. Et surtout, dans cette soupe à l'oignon, à la fin, on les égoutte, on les sèche et on les huile légèrement. Mmh. Maintenant, vous êtes armé avec ces œufs pour faire un surgrisma, un duel d'œufs à faire avec votre voisin de table. C'est très simple, on va entrechoquer le bas, puis le haut de chaque œuf, et celui qui va garder le sien intact gagne, et il est réputé avoir de la chance toute l'année. La coloration n'a pas d'impact sur le goût de ces œufs durs, alors on peut les manger en salade avec un peu de vinaigre avant de partager l'agneau. Mais on les utilise aussi dans la tsouriki, une brioche tressée qui est recouverte de graines de sésame. Et ce pain brioché, on va le retrouver aussi bien en Grèce qu'en Arménie, en Bulgarie, en Roumanie, sous différents noms. Enfin, s'il vous reste encore de la place après les œufs et l'agneau, je vous propose une petite recette de dessert à la grecque, des kouloukia.
Ah, je connais, je connais,
beurre.
Je connais.
Et voilà, au beurre et pas à l'huile d'olive, roulé dans le sésame. C'est vraiment pas compliqué à faire. Je vous ai mis la recette détaillée sur la page. On va déguster du site de France Inter. On prépare ces sablés en même temps que les œufs rouges du jeudi saint et on ne les mange que le dimanche de Pâques. Les kouloukia surtout, c'est très rigolo à faire en famille pour faire un atelier de pâte à modeler qui se mange. Avec, on va faire des cercles, des S, des tresses et des chapiteaux de colonnes ioniques. Surtout, comme ça se garde dans une boîte métallique, vous allez pouvoir faire vos biscuits pour la semaine cet après-midi. Allez, je vous souhaite une kalopaska à tous.
Une
kalopaska.
Kalopaska, avec l'accent en plus. Et c'est les kouloukia.
Tout à fait, des petits kouloukia à tresser en famille.
J'étais à la Pâque orthodoxe en Grèce, du côté de Kalamata, dans le Péloponnèse, l'an dernier, et j'ai mangé des kouloukia dans une pâtisserie de Kalamata, hein, cette ville du Péloponnèse, absolument formidable, j'en garde un souvenir ému. Ils m'ont rappelé un peu les canistrelli corses que j'ai l'habitude aussi de manger l'été.
Oui, mais là, alors ceux-là ne sont pas parfumés à l'anis, mais vous allez pouvoir mettre dedans un peu de métaxa, un alcool grec,
ah oui,
métaxa,
d'accord.
Ou du cognac, ou du jus d'orange, ou même un petit peu de vanille si vous avez rien d'autre sous la main, évidemment.
Merci beaucoup Estérel, et je vous souhaite une joyeuse Pâques confinée, mais quand même en famille et heureuse et joyeuse. Nous avons Christophe en ligne, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Un petit
message. Comment allez-vous?
Mais ça va très bien et vous?
Bah ça va, je suis super content de vous entendre. Moi je suis confiné dans des conditions relativement bonnes puisque j'ai un jardin, voilà. Donc
oui, vous êtes de quel côté?
Châteauroux.
Oui.
Le centre géographique de la France, c'est pas une région hyper connue pour sa gastronomie, mais bon, on mange des plats des autres départements. Hein, mais il y a quand même le pâté de Pâques qui est un truc assez intéressant. Mais bon, c'est pas de la gastronomie lyonnaise, c'est sûr. Hein, ça vaut pas de saucisson brioché de chez Chordier.
Oui.
Puisque je sais que vous êtes de Lyon.
Ah, absolument, et oui. Chorlier, c'était quand même un sacré traiteur qui faisait notamment un sandwich au cresson formidable qu'on allait acheter sandwich, vous savez, un peu à l'anglaise, avec un pain de mie un peu dense et du cresson. C'était absolument délicieux.
Ah oui, je me rappelle de ça, oui. J'ai un petit remerciement à faire passer à Jérôme Gagnès pour son vin. Là, je connaissais de Maury, mais je connaissais pas du tout le vin qu'il nous a présenté, et j'ai noté ça scrupuleusement.
Eh ben, écoutez, c'est parfait. Dites-moi, Christophe, donc pas que solitaire, pas qu'en famille.
Alors, j'ai mes filles cette semaine, mes deux filles, pour la semaine. Donc, je leur ai fait des petits plats. Mais bon, ça tourne beaucoup autour des pizzas, autour des pâtes. Mm-hmm. Mais
de l'agneau.
On réussit à se débrouiller à peu près.
De l'agneau ou pas d'agneau?
Non, alors je partage, personnellement, moi, ouais, je suis pas végétarien, mais pour l'agneau, je partage le point de vue qui a été donné. Ouais. C'est vrai que j'ai un peu du mal à manger des bébés.
Ouais. C'est effectivement une question qu'on s'est posée en début d'émission. Le veau, l'agneau, il y a une barrière, un frein, un tabou supplémentaire, évidemment. On l'a constaté sur les réseaux sociaux de France Inter, dans les messages, les nombreux messages de nos auditeurs. Merci
beaucoup. J'ai entendu ces messages. Pour moi, je vous dis, je suis plutôt flexitarien, en fait.
C'est
mais
ça.
Pour tout ce qui est ces viandes, veau, agneau, j'en mange jamais.
Ça marche. Bah écoutez, bonne Pâque quand même, en tout cas, cher Christophe. Merci de nous avoir appelé.
Merci. Et je vous souhaite beaucoup, je vous en prie. Vous voulez pas ma recette de pain, alors?
Mais si, mais alors rapidement, les principales étapes.
Oui, les principales étapes. Alors, ce qui est très important, et là j'en profite pour saluer Arnaud Daguin, c'est une farine qui vient du Gers, de la coopérative Éthica.
Ah oui, le département natal de Daguin.
De Touzelle. Et le principe, c'est vraiment, bon, c'est un pain classique, mais c'est cette farine-là, c'est un mélange de 4 graines, pavot, lin, blond, sésame, et j'ai oublié la quatrième, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, on pétrit normalement, et on laisse reposer 20 minutes, une seule boule, ensuite on partage en deux boules, on laisse reposer une heure, et on enfourne à 240 degrés pendant une vingtaine de minutes. Alors, ce qui est très important, à mon avis, c'est de pas oublier le petit ramequin d'eau pour que le pain soit un petit peu plus tendre à la cuisson. Et surtout, c'est bien meilleur qu'un pain en machine. Hein. C'est surtout ça, là-dessus que je voulais insister, en fait. Pain au four, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et j'ai pas encore essayé de pain aux cocottes, mais je compte m'y mettre.
Vous nous envoyez votre recette?
Absolument.
Sur onvasedeguster@radiofrance.com.
Merci beaucoup.
Merci pour votre fidélité, Christophe, et à très bientôt. Et encore une fois, joyeux week-end, Pascal.
À vous de même, et bonjour à toute l'équipe, bonjour à Estherelle, je lui avais retrouvé au fait un clitoris. J'en avais un en rab pour cocotte.
Là on parle cocotte minute, ben on fera des échanges de clitoris en antenne, désolé ça dérape. Merci beaucoup Christophe, en tout cas, je vous propose à présent une petite séance de cinéma gourmand signée l'ami Laurent Delmas.
Bonjour François-Régis.
Bonjour Laurent.
Bonjour, vous me surprenez.
Oui,
surprenez toujours.
Non, je suis vraiment désolé. On se demande avec vous si l'agneau ne serait pas une grande star de cinéma.
Ben oui, François-Régis, aujourd'hui il sera question de gigot et de cinéma. Pas de quoi peut-être faire une thèse d'État, hein, ou un cycle à la Cinémathèque française, mais tout de même quelques belles occurrences. Ben, si vous voulez, on écoute d'abord un extrait d'un film que vous connaissez, que vous avez vu. Allez, on ne dit rien d'autre,
on l'écoute ensemble. Il va essayer de me
piéger. Allez.
Votre gigot, il pèse combien?
800 grammes, une demi-heure au four, vous le laissez, ça suffit.
Pas d'ail?
Oh, jamais d'ail dans l'agneau, oh là là. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite salade à ma façon?
Ah, oh, moi je veux bien, mais ça m'embête de vous faire travailler.
Ah, oh, vous charriez.
Alors d'accord.
Il y a un petit débat d'ailleurs, hein. Aïe ou paille avec l'agneau, je crois que ça sent un peu Chabrol, non?
On l'aura pas. Ben, bien sûr, oui, voilà, comme ce film bien nommé Le Boucher, réalisé en 1970 par un Claude Chabrol, peut-être pour moi au meilleur de sa forme. Le boucher en question, vous l'avez reconnu, ben, c'est Jean-Yann qui, malgré son accent de Fort-Réal, est le boucher d'une petite ville périgourdine, Trémola, précisément célèbre pour son cingle, François-Régis. Comme vous le savez, ce cingle-là, c'est le somptueux méandre que fait la Dordogne à cet endroit. Mais revenons à nos gigots, si vous voulez bien. Celui de Popol est très appétissant et offert, enveloppé comme un bouquet de fleurs, variante de la fameuse chanson de Brel, vous vous souvenez, je vous ai apporté un gigot parce que les fleurs c'est périssable. La destinataire de ce gigot cadeau, c'est l'institutrice que joue l'admirable Stéphane Audran. Le film s'ouvre avec la découpe par Popol d'un éblouissant rôti bœuf saignant comme il faut. Il se poursuit donc par ce gigot. Mais elle finira beaucoup moins bien, car Popol a le couteau un peu trop facile avec les jeunes femmes. Le boucher, je le signale, est aisément visible en VOD sur la Cinéthèque. avant de finir chez le boucher, le gigot, mais rappelons-le quand même, sous sa forme entière, si je puis dire, gambadé, s'il a été bien élevé dans des champs. C'est pourquoi je voudrais vous parler d'un très beau documentaire sorti cette année sur les écrans et qui s'intitule « Jeune bergère ».
Ah ouais, vous allez nous parler d'une certaine Stéphanie dans le Cotentin.
C'est le portrait de Stéphanie Maubé, ancienne graphiste parisienne qui depuis 10 ans est devenue éleveuse de brebis dans les prés salés du Cotentin. Ses pâturages submergés une fois par mois. Et oui, les prés salés, là où il faut être assurément pour cet élevage. Pas facile cette reconversion, pas facile cet environnement agricole bureaucratique, pas facile, mais le résultat est là. Et ce documentaire réalisé par une autre femme, Delphine Détrier, fait bigrement du bien. Et croyez-moi, les agneaux de cette dynamique et enthousiaste jeune bergère, on les voit très bien au gigot, tellement ils gambadent avec allégresse dans ces magnifiques prés salés. On se dit qu'à manger ces animaux si bien traités par Stéphanie Maubé, on ne risque rien, sinon que d'en redemander. Bon, allez, ce film, il est visible par tout un chacun sur le site Univers Ciné.
Très bien.
On revient à la fiction, si vous voulez bien, François-Régis.
Oui.
Et pas avec n'importe qui. Juste le maître du suspense, Hitchcock, qui n'a pas fait que des chefs-d'œuvre au cinéma, mais a su également se servir de la télé pour de savoureux courts-métrages sous le titre « Alfred Hitchcock présente ». Et à chaque fois que l'on me parle de gigot, comme vous l'avez fait pour préparer l'émission, je ne peux m'empêcher de penser à l'un de ses films intitulé « L'inspecteur se met à table ».
Ah oui, où le gigot est carrément l'arme du crime.
Soit le crime exactement à peu près parfait grâce à un gigot. C'est en effet l'histoire d'une tranquille ménagère qui un jour tue son mari volage d'un beau coup de gigot congelé. Elle met ensuite le dit gigot au four, évidemment, et ne manquera pas de le savourer avec les inspecteurs de police qu'elle a invités à sa table.
Oui.
Sujet du dîner, mais où est donc passée l'arme du crime? C'est comme toujours chez l'oncle Alfred, absolument cynique et sarcastique. Il est bien évident, François-Régis, que de telles conditions de dégustation sont à déconseiller fortement à nos auditeurs en mal d'impunité judiciaire. Même si c'est peut-être l'occasion de dire que l'agneau supporte très bien la congélation. Et sinon, ces petits bijoux signés Hitchcock, eh ben, ils existent en DVD. Allez, voilà, c'est dimanche.
Ouais.
Il est bientôt 11h, François-Régis, et même confiné, nous pouvons nous rassembler autour de la table familiale et du gigot. C'est ce que font Michel Piccoli et ses vieux copains dans Vincent, François, Paul et les autres. Une merveille signée sautée à voir et à revoir en VOD sur Filmo TV. Piccoli est à la découpe du gigot. Mais bon, voilà, son patré Gianni lui dit des méchancetés. Et c'est le gigot qui trinque, entre autres. Mais le dernier bon mot revient, lui, à Yves Montand.
Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des sons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde.
Écoute François, écoute.
Ta gueule, toi. Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde. Je vous emmerde tous, un bout de dimanche, petit chico à la con. Merde.
Bon, ben, il refroidit, ouais. Hein, c'est pas la peine.
Et voilà, ouais. Yves Montand, il a le bon mot évidemment à la
fin.
Sauté. Ben bien sûr. François-Régis, on peut juste ajouter un petit mot pour dire que comme bon nombre de restaurateurs,
oui.
Notre ami Chemin, Nordine Labiade,
dont vous nous aviez parlé, bien sûr.
Dans le 14e, hein, le restaurant à mi-chemin propose ses plats du jour à emporter du jeudi au samedi sur place. C'est bon de retrouver, entre autres, ses couscous et sa mouria à déguster chez soi en emportant une petite quille du fruité fleuri de Christophe Pacalet. Tous les renseignements utiles sur le site de l'émission Joyeuse Pâques.
Reprend du service, absolument, notre ami Nordine du bistrot à mi-chemin rue Boulard. Merci de le signaler, cher ami. Et merci, Laurent, pour votre... je pensais qu'on allait avoir droit au silence des agneaux. Non,
ben, ça, vous me l'aviez proposé, je trouve. C'est gonflé, quand même, hein, franchement.
Oui,
hein.
on est bien d'accord. Eh bien, Perla, nous ne l'aurons pas, malheureusement, mais nous avons peut-être Eric, très rapidement.
Oui, bonjour.
Bonjour, il nous reste une poignée de secondes pour évoquer votre recette de gâteau au chocolat sans farine.
Oui, un gâteau très très simple, en fait. Vous prenez deux tablettes de chocolat à 70% de cacao, que vous faites fondre au bain-marie avec une plaquette de beurre coupée en petits morceaux, 125 grammes. Ensuite, dans un autre plat, on mélange 4 bananes avec 4 œufs. On peut sucrer un petit peu. On mélange le tout. On met au four à 180 degrés pour 25 minutes dans un plat beurré.
Très bien.
Et en fait,
c'est
un fondant craquelé. Alors moi, je l'ai servi avec aussi une crème que j'ai siphonnée avec un petit peu de
oui,
crème.
Oui, ou une petite crème anglaise, c'est génial.
Et comme je n'ai plus de sucre, j'ai fait fondre des bonbons au miel.
Ah,
les moyens du bord.
Et ben voilà.
Et voilà, des petites astuces.
Merci.
Comme ça pour,
Magnifique. Merci beaucoup, Eric, pour cette recette de gâteau au chocolat sans farine. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau grand format dont on va déguster, pour faire le plein de savoir, de saveur, dans la bonne humeur. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,